40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Le problème, c'est que 94% des produits qui sont vendus sont des produits neufs, qui sont responsables de 80% des émissions de carbone de toute l'industrie numérique, du hardware. C'est colossal.
Le reconditionnement et le recyclage, c'est des circuits qui ne marchent pas encore très bien ensemble.
C'est pas juste une idée, la diversité, ça marche.
Donc on fait pas de l'hypercroissance pour l'hypercroissance.
On vous retrouve cette semaine encore pour un nouvel épisode de 40 nuances de Next. Ici Thomas Benzazon pour Feuille Blanche et les ovnis. Et comme toujours, j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu, président de The Camp et vice-président de France Digital. Bonjour Olivier.
Salut Thomas, ravi de refaire cette émission avec toi. Et on retrouve comme d'habitude l'ensemble de nos partenaires qui relaient le podcast et qui vont intervenir tout au long de l'émission, à savoir les groupes de presse Madines et La Tribune. Et on a également la French Tech qui nous accompagne avec France Digital, bien entendu, qui posera aussi une question à notre invité.
Et notre invité, parlons-en, il s'appelle Thibaut, il réinvente les modes de consommation. Thibaut Hugues de La Rose, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour Olivier.
Salut Thibaut.
Thibaut, tu es le cofondateur de Back Market. On va évidemment, pendant ce podcast qui t'est dédié, parler de ton business, parler de ses enjeux. Et dans un second temps, on aura le plaisir de découvrir qui est l'homme derrière l'entreprise. Olivier, je peux peut-être te laisser ouvrir les hostilités.
Oui, bah Thibaut, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Tu sais que ce podcast est dédié au Next 40, donc c'est vraiment les 40 plus grosses startups, voire comme on dit dans notre jargon, les scale-up, c'est-à-dire l'étape d'après la startup. Toi en particulier, avec Back Market, vous avez réalisé des très belles performances de croissance ces dernières années, et en particulier la performance aussi de lever de l'argent en plein milieu de la crise du Covid, ce qui était une belle performance alors que tout le monde se plaignait de la trésorerie et profitait de toutes les aides d'État possibles. Back Market était sur une trajectoire de croissance très forte. Je crois que vous avez levé 110 millions d'euros avant l'été, au printemps, et notamment pour aller aux États-Unis. Mais ce qui nous amuse, avant d'arriver à décrire et peut-être décortiquer les ressorts de ton succès, c'est de repartir au début de Back Market et que tu nous redises quand ça a été créé et quel était le pitch au départ de Back Market pour qu'on puisse mesurer un peu l'évolution de cette plateforme. Alors je te propose, si tu veux bien d'ailleurs Thomas, nous envoyer notre petit pitch.
Back Market, expliquer à un enfant de 3 ans, ça donne quoi Thibaut?
Un enfant de 3 ans, c'est un site internet pour acheter des produits électroniques beaucoup moins chers et beaucoup plus responsables pour la planète.
Ça naît comment un projet comme ça?
Alors ça naît d'un alignement de planètes, un projet comme ça. Alors il y en a quelques-unes. La première, c'est un environnement familial très entrepreneurial. Clairement, j'ai été bercé dedans depuis que je suis tout petit, avec mon père, mon grand-père, mes frères. Deuxième truc, ça naît d'une rencontre avec un marché des reconditionneurs qui en fait le savaient pas, mais étaient en train de mener une révolution très back-office. Hein. Ils redonnaient vie à des produits qui allaient partir à la baille. Donc ça, c'était génial d'avoir cette épiphanie. C'est juste qu'ils savaient pas, ils utilisaient les canaux de distribution classiques pour les vendre. Ils savaient pas que ça pouvait se vendre beaucoup mieux et beaucoup plus.
Les circuits classiques, c'était quoi? C'était en GMS?
C'était en GMS, c'était sur des sites comme Amazon, comme Cdiscount. C'était des circuits de distribution qui étaient faits pour distribuer des produits neufs et des produits d'occasion. Mais il n'y avait pas une place de choix, il n'y avait pas un spécialiste qui leur offrait un canal de distribution dédié à ces produits remis à neuf par des professionnels, qui fait une différence assez énorme pour le consommateur. Quoi. C'est un peu ce qu'a fait Biocop, si tu veux, dans les années 70 avec les produits bio. Ça existe depuis des centaines d'années, les produits bio. C'est juste que il y a personne qui en parlait, qui avait créé une boutique, un étalage pour vendre que ça.
C'est quoi? C'est le côté verticalité qui fait que, ou non verticalité qui fait que l'offre trouvait pas la demande?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le consommateur, en fait, il avait deux choix quand il voulait acheter un produit électronique. Donc, c'était soit j'achète neuf, je paye plein pot, mais par contre, j'ai des garanties, j'ai un SAV, etc. Soit je fais exactement le contraire, je vais sur de l'occasion et je le paye vraiment pas cher. Par contre, j'ai zéro garantie, zéro SAV. Ou au mieux, c'est flou, peut-être qu'il y aura quelque chose, quoi. Donc il n'y avait pas, si tu veux, cette alternative qu'on a créée, qui est entre les deux, qui à la fois prend l'avantage prix sur le neuf, qui est significatif, des garanties, une assurance sur des produits qui n'existaient pas sur l'occasion. Voilà, c'est ça la différence majeure qu'on a créée avec Back Market.
Mais du coup, Back Market est une plateforme, c'est-à-dire que tu mets en relation avec des vendeurs qui, eux, rénovent les produits.
Tout à fait.
C'est pas vous-même qui rénovez les produits et qui.
Ouais.
Et est-ce que la garantie est proposée par Back Market ou par les vendeurs?
Alors c'est le vendeur qui porte la garantie. Après, Back Market joue son rôle de tiers de confiance à plein. Il s'assure qu'elle est entièrement respectée par le vendeur. En fait, on a écrit une charte de qualité que chaque vendeur doit signer pour pouvoir vendre sur la plateforme. Et donc, il doit garantir le produit minimum 12 mois en l'occurrence. Il doit répondre à toute une exigence en termes de vérification à faire sur les produits, hein. Et puis il doit s'engager à respecter un niveau de service aussi pour que le consommateur en cas de problème soit traité ultra rapidement.
Dans certaines industries, maîtriser toute la chaîne de production fait sens. C'est des questions que vous êtes posées chez Back Market et si oui, pourquoi c'est pas un choix que vous avez fait de gérer vous-même le reconditionnement et d'aller jusqu'à la garantie, le SAV, etc., tout en interne?
Alors, c'est important de comprendre, donc comme le disait Olivier, on est une marketplace à 100%. Donc aujourd'hui, on a 1500 professionnels qui utilisent Back Market pour distribuer leurs produits aux consommateurs finaux. On ne fait pas l'opération de reconditionnement nous-mêmes, hein, Back Market. On est cette plateforme qui va s'assurer de la qualité de ses produits. Donc en fait, on a une charte de qualité, comme j'expliquais juste avant, pour s'assurer que les produits soient bien vérifiés, que les batteries soient en bon état, que les pièces de remplacement des produits soient de pièces d'excellente qualité, que en cas de problème, le consommateur soit traité ultra rapidement pour avoir soit une réparation, soit un produit de remplacement, soit un remboursement dans un créneau ultra rapide. Donc c'est ça tout le rôle que va jouer à plein Back Market, c'est s'assurer que l'expérience en fait du consommateur elle soit aussi bonne que quand tu achètes un produit neuf. C'est ça le défi que relève Back Market.
Olivier, je crois que tu avais une question juste pour aller plus loin. Le fait d'utiliser des reconditionneurs, comme ça, c'est aussi ce qui permet d'aller plus vite dans le déploiement de Back Market un peu partout dans le monde.
Moi, je pense que le modèle de marketplace, et Olivier, on a créé une belle aussi en France il y a quelques années. La beauté du modèle, c'est effectivement qu'on peut aller beaucoup plus vite puisque on ne va pas faire les opérations nous-mêmes sur les produits. On va pas devoir s'occuper de financer le stock. On va pouvoir jouer, en fait, on va pouvoir se concentrer sur les interfaces digitales, s'assurer de construire des services à forte valeur pour tout cet écosystème qui, lui, porte les produits, reconditionne ses produits, s'assure de la distribution de ses produits. Et donc, on est beaucoup plus léger d'un point de vue financier. On peut aller donc beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. C'est ce qui nous permet en un peu moins de 6 ans d'être dans 10 pays aujourd'hui et d'avoir une croissance qui est toujours extrêmement forte.
Est-ce qu'on peut comparer finalement ce marché du reconditionnement un peu à ce qui s'est passé sur la voiture d'occasion, savoir qu'il y a effectivement aussi un marché après des concessionnaires et des fabricants qui reconditionnent finalement aussi les voitures et qui proposent une garantie associée en parallèle du marché de l'occasion? C'est semblable?
Ouais, carrément. Moi j'adore cet exemple, je le prends souvent en exemple. La voiture est un marché beaucoup plus mature où effectivement ton fabricant, ton concessionnaire, il va te proposer trois choses. Il va te proposer de te vendre un véhicule neuf, il va te proposer de te le vendre aussi d'occasion et il va te proposer de maintenir ton véhicule. Et puis enfin, il va te proposer de le reprendre ton véhicule quand on achète un autre. Donc la panoplie de services, elle est hyper exhaustive. C'est-à-dire qu'il change complètement la relation que tu as avec ton produit qui est plus linéaire comme c'est trop le cas sur la tech. Dans la tech aujourd'hui, dans le hardware, hein, dans les produits électroniques, il y a de l'innovation, on sort des produits, on les distribue en millions d'unités, et puis après, je grossis le trait, mais on s'en fout, quoi. Le consommateur se débrouille pour soit le réparer, soit le revendre.
Alors que sur le monde de la voiture, on est déjà vachement devant. Et donc, Back Market, en fait, amène les niveaux de service qui existent sur le monde de la voiture dans l'électronique.
J'aimerais bien, Thibaut, ton avis sur l'obsolescence programmée, en sachant que si demain, les innovations ne se renouvellent pas aussi rapidement que ça a pu être le cas ou que les produits durent plus longtemps, est-ce qu'il y a encore une place dans ce monde pour Back Market ?
Ah bah, bien sûr, et d'ailleurs elle sera encore plus énorme, c'est-à-dire que si le monde du neuf s'arrête de produire, l'économie sera 100% circulaire, puisque quand tu auras un besoin de t'équiper en produit, bah, la seule option que tu auras, c'est de te tourner soit vers du reconditionné, soit vers de l'occasion. C'était une vision assez utopique d'ailleurs, hein. Si tu reprends la mission de Back Market, c'est de créer donc cette économie la plus circulaire possible sur les produits électroniques, pour in fine déproduire un maximum de produits neufs, parce que le gros problème, hein, dans l'électronique, c'est que en fait 75 à 80% de l'empreinte carbone, hein, du monde électronique, elle est faite par la production du hardware, la production de ton ordinateur, de ton smartphone, de ton frigo. C'est ça qui impacte. Donc si tu veux résoudre ce problème, en tout cas l'adresser, bah, t'as deux options. Une qui est super plaisante philosophiquement, qui est de dire, attendez, les consommateurs, les citoyens, on arrête d'acheter neuf et tout, c'est catastrophique pour l'écologie. Bon, malheureusement, tu regardes les tendances de consommation, c'est pas vraiment dans ce sens-là que ça va. Ou tu fais une réponse plutôt pragmatique, qui est celle qui est un peu moins philosophique, c'est ce que fait Back Market, c'est proposer des produits remis à neuf, et à chaque fois que tu vends un produit remis à neuf, bah, c'est un produit neuf vendu en moins, et donc in fine tu limites la production.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les consommateurs se tournent toujours encore plus vers le neuf que vers le reconditionné? C'est le fait qu'on connaît peu le reconditionné, c'est le fait qu'on a peur de la qualité du reconditionné, ou c'est le fait simplement qu'on veut dans ce monde toujours le dernier outil à la pointe de l'innovation qui vient de sortir avec le nouveau design, etc., etc.
T'as apporté deux éléments de réponse qui sont vrais, c'est pas que l'un ou l'autre, hein. Le premier élément qui fait que aujourd'hui les produits neufs sont vendus en masse et de manière largement supérieure aux produits d'occasion, aux produits reconditionnés, c'est que les circuits de supply, de reconditionnement, ils sont pas du tout aussi importants, aussi véloces. Alors ils grandissent énormément et ça fait partie de notre job de les aider à grandir le plus possible. Mais le reconditionnement n'a pas encore la même supply chain que Apple, Samsung, Huawei et tous les constructeurs de produits électroménagers. Voilà. Donc finalement, quand tu veux acheter un produit aujourd'hui, tu le trouves de plus en plus reconditionné, parce que voilà, on essaye de solidifier tout cet écosystème et de le faire exister le plus possible. Mais tu vas pas le trouver systématiquement, donc tu vas te retrouver à devoir en fait te rapatrier sur du neuf. Donc ça, c'est le premier problème, c'est la supply. Et une partie du pourquoi, c'est aussi que l'intérêt finalement de beaucoup de marques et de constructeurs, c'est pas forcément d'aller dans la réparation, d'aller dans le reconditionnement, puisque ça fait des centaines d'années pour certains qui produisent, qui innovent et qui vendent des produits neufs. Donc c'est une transformation profonde, hein, de se mettre à faire ce qui s'est passé sur le monde de l'automobile, hein. Mais je pense qu'ils vont y arriver. En tout cas, c'est un début de révolution, quoi.
Pour comprendre un peu justement ces ressorts et prolonger la question de Thomas, je me demande si on peut arriver à dimensionner un petit peu la taille du marché des produits d'occasion. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre qu'on peut proposer pour comprendre cette réflexion aussi sur l'obsolescence programmée, c'est-à-dire finalement combien de téléphones sont vendus dans le monde et en France, pour prendre l'exemple des téléphones, qui est un des marchés les plus renouvelés et dont on critique le plus l'obsolescence programmée. Et est-ce qu'il y a une sorte de stratégie du coup des industriels derrière tout ça, qui est réellement on parle souvent un peu de la théorie du complot, quand les gens disent que c'est effectivement une obsolescence programmée, c'est finalement un complot ourdi par les fabricants pour pousser l'économie de l'offre.
Bah, en fait, je vais te donner deux chiffres macro, hein, qui vont répondre un peu à ta question. Aujourd'hui, l'économie du reconditionné, elle représente un marché de 80 milliards de dollars annuels. Et sur les produits électroniques neufs, c'est 1,3 trilliard. Donc 1300 milliards, en fait. Donc
Si tu fais un ratio tout con, en fait, ça veut dire que t'as que 6% des produits tech vendus qui sont reconditionnés. 94%, ça va être du neuf. Donc en fait, t'as une déferlante de produits neufs qui arrive sur le marché chaque année, qui a donc l'incidence dramatique écologique dont on parle au début. Donc ça, c'est un. Et puis après, est-ce qu'il y a des stratégies mises en place par les marques? Je vais vous donner quelques exemples concrets parce que j'ai pas envie de parler de théorie uniquement, mais tu vois, typiquement les MacBooks, il y a une génération de MacBooks depuis 2016 que tu ne peux plus réparer. T'as une puce qui s'appelle la puce T2 à l'intérieur de ces MacBooks, et donc si tu remplaces certaines pièces dans ton MacBook, parce que voilà, elles sont fatiguées, tu les as pétées, voilà, peu importe, le produit ne va plus fonctionner. Il va détecter que tu as une pièce étrangère au système qui a été construit, parce que l'opérateur, le logiciel, c'est le même que le fabricant, va dire ok, bah cette pièce là c'est pas moi qui l'ai créée, c'est pas moi qui l'ai mise, donc le produit doit plus marcher. Donc là, ouais, là on a une volonté frontale de pas aider à réparer le produit ou à lui donner une deuxième vie. Claire. Donc ça, c'est pas possible, tu vois. Ça peut plus arriver en 2020, 2021, enfin, à notre époque. Nous, on lutte de plus en plus contre ça.
Et alors, quand tu dis on lutte, c'est on lutte comment? On lutte avec qui? Et peut-être notamment les autorités?
T'as par le haut et par le bas, hein. J'ai envie de dire, faut tout faire, en fait. Par le bas, en fait, on a un laboratoire en interne, hein, chez Backmarket, d'ingénieurs hardware, un lab innovation, où en fait, les mecs vont tester des pièces compatibles toute la journée et regarder la qualité de ces pièces, donc la qualité des batteries, la qualité des composants, voir si quand tu les mets et quand tu les remplaces dans les produits, ils donnent en fait la même satisfaction que la pièce d'origine. Et c'est la jungle. Et tu imagines bien que les producteurs de ces pièces détachées, le fabricant leur donne pas une notice parfaite de comment les reproduire. Donc ils doivent se débrouiller, hein, pour arriver à faire des pièces qui sont au moins aussi bonnes que celles que le fabricant a créées dans son produit original. Donc t'as tout un écosystème parallèle qui se développe pour créer de la pièce compatible. Donc ça, moi je trouve ça assez génial. C'est une révolution concrète, hein, et qui permet aujourd'hui de réparer des produits. Parce que si eux n'existaient pas, concrètement, la vie du produit, elle s'arrêterait net, hein, si ta batterie était morte ou si t'avais pété ton écran. Ou alors, t'irais chez le constructeur. Mais qu'est-ce qui se passe souvent quand tu vas chez le constructeur? Mais ta réparation, elle te coûte entre 3 et 10 fois plus cher. Donc en fait, ça revient au même que te dire, écoute Thomas, en fait, rachète-en un nouveau, hein, ça va te coûter moins cher, quoi.
Autant reprendre du neuf.
Donc c'est pas une réponse satisfaisante, et donc ça va favoriser une économie linéaire et ça va être une catastrophe écologique. Donc ça, c'est la première réponse, moi, que je trouve assez excitante, qui est une révolution qui est en marche, hein, mais qui est pas sur tous les produits. Elle peut exister que sur des produits qui sont vendus en beaucoup de quantité, parce que t'imagines bien qu'il y a de l'innovation derrière et que ça coûte cher. Et puis t'as le deuxième truc qui est au niveau des gouvernements, au niveau des lois, où il faut qu'on commence à discuter de plus en plus activement, hein, avec le gouvernement. Alors on avait Barbara Pompili et Cédrico qui sont venus nous voir là il y a 2 semaines au bureau. Donc c'était très bien. Donc on a pu parler de ces sujets-là. Mais concrètement, Backmarket aujourd'hui a pas du tout investi ce sujet par le haut. Donc voilà, on commence.
Tu sens quand même qu'il y a une volonté de faire bouger les choses, ou ça semble trop complexe?
Non, je pense qu'il y a une vraie volonté. Enfin, tu vois, le discours était hyper... Moi, j'ai trouvé le discours de Barbara Pompili pas très politique, justement, assez concret, quoi. On parlait de pièces détachées, de réparabilité des produits, etc. Donc, il y a des lois qui vont passer, hein, qui sont déjà passées, qui vont rentrer en vigueur même, qui vont favoriser la réparation et le reconditionnement. Donc ça, c'est génial. Il y a une vraie volonté, il y a du concret, il y a des trucs qui sortent. Après, pour faire le truc parfaitement, voilà, c'est un peu comme en tech, hein, tu fais pas ton produit parfaitement quand tu le sors. Il y a encore des trous dans la raquette, des trucs qu'il faut améliorer. Donc c'est une première étape qui est vachement bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire derrière, puisque en fait, pour proscrire la réparation, quand t'es fabricant, t'as 3 moyens, hein. assez facile. Soit tu rends la réparation hyper chère, voilà. Tu as des études qui montrent que si en gros la réparation coûte plus de un tiers du produit neuf, bah le consommateur va plutôt aller vers du produit neuf.
Est-ce que c'est parce que ça coûte vraiment un tiers en termes de prix, slash on ajoute la marge, ça coûte vraiment un tiers du prix du produit neuf de réparer?
Ah non,
ou
non,
c'est
non.
Une volonté de...
Oh ben non, c'est une volonté, ouais, c'est une volonté. Une batterie, je vais te donner un exemple très simple, hein. Une batterie originale compatible de la même qualité en termes de cycle, en termes de durabilité sur un iPhone, elle peut coûter entre 6 et 10 dollars max, tu vois. Le constructeur, il va te la vendre 60. Voilà, t'as un ordre d'idée. Est-ce que ça lui coûte plus cher de la produire? A priori non, voire évidemment le contraire, beaucoup moins. Donc oui, il y a une volonté, elle est nette. Après, t'as un autre moyen qui est en fait de rendre les pièces détachées disponibles, hein, à la vente. Tu dis, moi je suis constructeur, je rends mes pièces disponibles à la vente pour les réparer et tout ça. Mais je les vends qu'à un réseau très petit, en fait, hein, de réparateurs que moi-même je vais agréer pour être sûr qu'ils jouent avec mes règles, qui va en fait limiter énormément le reach. C'est-à-dire qu'ils vont, adresser une infime partie du problème. Donc, ça permet d'un point de vue marketing de dire oui, je le fais, je mets mes pièces détachées à vendre à des prix raisonnables, mais je les donne que dans le cadre d'une garantie que moi je donne à travers un réseau de réparateurs que moi je contrôle.
Si je comprends bien, finalement, l'intérêt des constructeurs, c'est soit de ne pas faire réparer les produits et donc de pousser toujours à acheter la génération suivante, ou alors quand il s'agit de les faire réparer ou de changer une pièce, de quand même contrôler les prix et le réseau de distribution pour continuer à les vendre plus cher. Et du coup, ça me fait penser un peu aux grandes heures aussi du lobbying contre des industries qui ont pu être, je sais pas, l'industrie du tabac ou l'industrie des produits chimiques, etc. On a l'impression qu'on est un peu dans un monde, je sais pas si j'exagère, hein, peut-être que je noircis le tableau, mais dans un monde où vous devez aussi lutter en matière de réglementation, de loi, de lobbying, parce que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'intérêt du consommateur diverge avec l'intérêt des fabricants.
Oui, tout à fait. Bah, t'as bien résumé, Olivier. C'est le gros problème, c'est que les intérêts sont pas alignés. Donc, il faut passer par du lobbying, et donc on se structure, hein, là-dessus. Mais c'est un combat qui va être long. Et après, moi, je pense aussi, de manière optimiste, mais aussi assez pragmatique, avec l'exemple du marché de la voiture, que les constructeurs vont faire le pas, vont aller vers de la réparation, du trade-in et de la maintenance. À moyen terme, à long terme, le but c'est qu'ils le fassent le plus vite possible. Et on voit qu'il y a certaines marques qui ont déjà pris le virage, en tout cas en partie. Donc moi, ça me donne vachement d'espoir pour la suite.
On a évoqué, Thibaut, toutes les raisons qui font qu'a priori le reconditionnement devrait prendre de l'essor dans les années, décennies à venir. Qu'est-ce qui fait, à l'inverse, que ton marché pourrait ne pas trouver son public ou pas suffisamment? Si on essaye plutôt de pousser vers tout ce qui ne marche pas aujourd'hui dans les questions de reconditionnement. Alors, je sais que c'est un exercice difficile, mais je serais curieux d'avoir ta vision des écueils aujourd'hui du marché.
Bah, le plus gros écueil qui freine aujourd'hui, c'est finalement la qualité. La qualité fait quoi? C'est en gros le taux de panne sur les produits. Si les produits reconditionnés et les produits d'occasion avaient exactement la même fiabilité que les produits neufs, finalement ils seraient aussi vendus en masse sur des circuits traditionnels. Il n'y aurait pas eu besoin de créer un back market, si tu veux. Donc le travail sur la qualité et sur la qualité des produits et du reconditionnement et donc de l'expérience que tu vas donner à ton consommateur final, elle est essentielle. Si tu es déceptif là-dessus, il va se dire « Ok, j'ai essayé, j'y retourne pas. C'est fini, quoi. Je vais retourner acheter du neuf et voilà, l'économie linéaire a gagné. » Mais bon, en même temps, tu peux comprendre le conso, quoi. Il n'a pas que ça à faire, quoi. Donc, il faut investir massivement, et c'est ce qu'on fait, hein. On a plus d'un tiers de nos ressources qui sont dédiées à la qualité, pour pouvoir baisser le taux de panne des produits au maximum et les amener au niveau du neuf. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà divisé par deux là sur les 18 derniers mois, mais qu'il y a encore du boulot. Et donc ça repose sur une grande chose, hein, c'est l'accès aux pièces détachées.
Voilà. Il faut qu'il y ait un accès aux pièces détachées qui soit donné à tous et sans condition. Et là, on touche ta question d'avance et il va falloir réguler. Il va falloir que les pièces détachées soient accessibles hein, pour monsieur et madame tout le monde et aussi pour tous les réparateurs et tous les reconditionneurs pour pouvoir permettre à ces produits de vivre plus longtemps. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est le frein, c'est le talon d'Achille du marché sur lequel il faut mettre les bouchées triples parce que si on n'arrive pas à se mettre au niveau du neuf, ça marchera pas.
Thibaut, on a une question de notre partenaire Madinès qu'on te propose de te soumettre. Une question de Géraldine Russel. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour, voici ma question. Quand on promeut une consommation raisonnée, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de lever 110 millions d'euros? Est-ce que cette course à l'hypercroissance, finalement, n'est pas contradictoire avec vos engagements?
Pour moi, c'est impossible de le faire sans ces moyens. C'est probablement pas assez. En fait, il faut lutter avec les mêmes armes que le neuf. Voilà, vous pouvez regarder les valorisations et le cash disponible dans les caisses du conglomérat de Samsung, de Apple, de Amazon, de toute cette industrie en fait hein, de fabrication et de distribution du neuf. Vous pouvez essayer d'aller les taquiner avec nu avec une feuille de vigne devant et derrière, mais le résultat risque d'être un peu déceptif quoi hein, et pour être concret, je pense que vous avez absolument aucune chance d'arriver à faire une différence. Donc c'est nécessaire en fait.
La question de Géraldine est volontairement piquante, mais c'est vrai que c'est un sujet hein, les questions liées à l'hypercroissance qu'aime beaucoup Olivier d'ailleurs. Est-ce que la réponse du coup c'est que la question c'est pas l'argent mais ce à quoi il sert?
Bah si, c'est ça. Je pense que d'ailleurs, Thomas, n'hésite pas à répondre à ma place, c'est mieux dit. si, c'est à quoi il sert. Et aujourd'hui, le problème, c'est que 94% des produits qui sont vendus sont des produits neufs, qui sont responsables de 80% des émissions de carbone de toute l'industrie numérique, du hardware. C'est colossal. Donc le sujet, c'est comment tu renverses cette vapeur, que tu diminues la production de produits neufs. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'innovation, ça demande de l'argent. Donc on fait pas de l'hypercroissance pour l'hypercroissance. D'ailleurs j'ai ce sujet moi qui m'horripile en France des licornes et tout. On s'en fout. Nous ce qui nous excite, ce qui nous intéresse et qui fait venir ces 400 personnes travailler chez Back Market, bah c'est d'aller saboter cette industrie du neuf et de créer une économie qui est beaucoup plus circulaire.
Là, l'intérêt de la question de Géraldine, c'est qu'on a au moins deux punchlines pour notre introduction.
Bon, pas tant mieux.
Olivier, je sais que tu voulais réagir.
On a beaucoup parlé de cette levée de fonds formidable de 110 millions d'euros arrivée en plein confinement pour Back Market. Et on a également imaginé de lancer une nouvelle rubrique. On verra si on la prolonge dans d'autres podcasts. C'est la rubrique qu'on appelle l'anti-portfolio, c'est-à-dire à savoir à l'origine finalement d'un dossier. Parfois, on présente une start-up à des fonds d'investissement et certains évidemment déclinent et ne suivent pas, n'investissent pas. Et donc, c'est intéressant aussi parfois de revenir sur l'histoire et de comprendre pourquoi et comment, quelle était leur thèse d'investissement, alors qu'aujourd'hui, Back Market est évidemment une entreprise à succès. Et on a un investisseur qui a accepté de jouer le jeu, ce jeu de l'anti-portfolio, donc du portefeuille d'investissement qui n'a pas été réalisé. Il s'agit de Jean-David Chamboredon, le patron d'Isaïe.
Vous avez un message.
Oui, Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds Isaïe. On a toujours regretté chez Isaïe de ne pas avoir investi en 2015 dans Back Market. Je crois qu'on en a eu l'opportunité. En tout cas, on a eu l'opportunité de regarder le business à ce moment-là. Et on est maintenant convaincu que la société fera partie de ce qu'on appelle notre anti-portfolio. Voilà, on serait aujourd'hui des investisseurs très heureux si on avait pu concrétiser les conversations qui avaient été les nôtres. Ma question pour Thibaut correspond à une question qu'on se posait à l'époque, qui était la dépendance du business à Apple et à l'iPhone en particulier, avec l'idée que l'iPhone pouvait passer de mode ou qu'un Apple pouvait devenir nocif vis-à-vis de gens qui évoluent dans son écosystème. Donc, j'aurais voulu savoir si ce risque avait évolué et si Thibault considérait qu'il était dorénavant totalement évacué. Voilà, merci.
Bah, c'est une très bonne question. Et donc, pour répondre très simplement, on n'a jamais lâché le sujet depuis qu'on a créé Back Market. Au début, 100% de nos commandes, c'était des iPhones reconditionnés. Donc, je comprends que ça ait pu faire un peu peur à Isaïe et Jean-David à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins de 50%. Voilà. Donc, en fait, pour améliorer tout le KPI, il faut les suivre. Et donc, ça reste un des KPI tout en haut qu'on regarde et qu'on suit comme du lait sur le feu. Et donc, on essaye maintenant, et on a réussi déjà sur plusieurs catégories et autres marques, à créer ce système de reconditionnement et d'économie circulaire. Je pense à Bosch, je pense à Dyson, je pense à Devialet, qui sont des marques qui font elles-mêmes leur conditionnement et qui vendent extrêmement bien chez nous. Et on n'a pas fini. Donc, ce KPI va encore évoluer, Jean-David. Et je suis très content d'être dans votre liste d'anti-portfolio.
La question de l'hypercroissance, moi, ça m'amène un petit peu aussi dans la question de ce qui s'est passé avec la crise, puisqu'on a connu cette crise avec le confinement au mois de mars. Et du coup, bah, vous avez opéré cette levée de fonds, donc on pourrait croire que finalement vous n'avez pas connu la crise. Mais est-ce que vous ressentez que dans ce monde un peu d'après et celui de la crise, il y a quelque chose qui a changé aussi dans la perception des consommateurs, dans la façon de consommer, parce que finalement, on a beaucoup parlé au moment du ralentissement de l'économie, aussi des bienfaits, notamment en termes environnementaux, bilan carbone, moins de circulation, le retour de la vie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont revenus un petit peu en haut de la pile de l'actualité, indépendamment évidemment de toutes les horreurs, hein, de la crise sanitaire et de ce qu'elle implique. Il y avait ces avantages, en quelque sorte, ces sortes d'effets secondaires de la crise. Est-ce que vous ressentez que ça a pu changer quelque chose, vous, du coup, chez les consommateurs, dans la façon d'appréhender sa consommation citoyenne, raisonnable, etc.
On change de rubrique. La réponse de Thibault, juste après ce jingle.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
Nous voilà plongés dans le confinement ou aujourd'hui dans le couvre-feu.
Oui, alors pour répondre à ta question, Olivier, moi, enfin, on a tous été au niveau mondial, hein, pas qu'au niveau français, confinés chez nous, effectivement, avec du calme, de la sobriété, hein, finalement imposée, avec moins de transport. On s'est posé tous beaucoup plus la question des circuits courts, en fait, qui étaient devenu de soudainement la priorité numéro un, et donc pour Back Market, ça a aidé évidemment, parce que nos consommateurs, nos clients sont des citoyens et des personnes qui ont aussi été confinées et aussi confrontées à ces questions, et donc t'as en fait la question du sens qui s'est posée chez beaucoup de personnes, en tout cas je sais pas si l'intégralité ce serait juste, mais chez énormément de monde, et en tout cas beaucoup plus que d'habitude, et c'est pour ça que ces sujets sont ressortis dans la presse finalement. Et donc ça, évidemment, c'est un limite pour une consommation plus responsable, un limite pour une diminution des émissions carbone, et donc bah, c'est 100% le sujet de Back Market sur les produits électroniques et sur la tech. Donc il y a une petite étude qu'on a faite et qu'on fait régulièrement, où on demande aux consos, en fait, en fait, pourquoi tu as acheté chez nous? Et au tout début de Back Market, il y avait 2,7% des consos qui disaient bah, moi, j'ai acheté pour une raison écologique. Je voulais pas acheter du neuf. Et cette part de consommation de cette réponse, puisque tu peux aussi dire bah, pour le prix, pour la garantie, etc., qui sont des arguments largement supérieurs, hein, pour être honnête. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce 2,7, il est passé à 17%. À la fin de l'année dernière, donc fin 2019. On va refaire l'analyse là en décembre prochain, donc dans 2 mois, quoi, pour demander à nos consommateurs, ok, qu'est-ce qu'il voudra et va venir acheter un produit reconditionné chez Back Market. Et je mets pas ma main à couper, mais je pense que évidemment le consommateur, le drive de l'écologie est encore plus fort qu'avant sur des cohortes de clients qui sont beaucoup plus importante en plus.
Donc ça, c'est positif.
Est-ce que vous faites des sondages régulièrement? Parce que,
tous les ans, oui.
Parce que là, tu disais, je me posais la question des sondages ou des études, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, on le faisait aussi à l'époque avec Pricemaster, puis Rakuten, on se pose toujours la question de quels sont les ressorts ou les motivations de l'achat. Effectivement, quand même très souvent sur Internet, on a toujours le prix qui remonte très haut. Mais c'est vrai qu'il me semble que dans l'économie circulaire, on a quelque chose de sociétal qui est en train de se passer. On l'avait observé aussi, on avait commencé 40 nuances de Next aussi dans les tout premiers podcasts avec Frédéric Mazzella de Blablacar, qui est aussi une forme d'économie circulaire appliquée à la mobilité et au transport. C'est-à-dire qu'on associe, et c'est vrai avec Back Market, un prix bas avec en plus un impact écologique beaucoup plus positif. Mais est-ce que vous arrivez à voir si ces critères-là changent dans les déclencheurs d'achat et de consommation des internautes?
Bah, on le voit là via ce 2,7% qui est passé à 17%, donc c'est énorme. Tu peux le voir aussi d'une manière encore plus concrète, puisque tu peux te dire un sondage, ça reste un sondage, mais quand même c'est du quali. Tu peux le voir aussi à travers la transformation et la réactivité de tes campagnes de pub. Quand on était tout petit, en fait, on était assez pris-produit dans nos communications finalement. Et puis on disait au consommateur qu'il n'avait pas juste fait un bon coup au niveau du prix, mais que il était entré dans une communauté et qu'il avait fait du bien à la planète en achetant ce produit plutôt qu'un produit neuf. Et là, on est passé sur des campagnes pour la première fois, donc en 2000, ouais, c'était en 2019 les toutes premières, mais ça, on les a vraiment poussé plus fort en 2020 sur finalement l'impact, quoi. Donc t'as pu le voir un peu dans les affichages métro à Paris, les bus et tout ça. Et donc cette campagne a très bien performé pour nous, donc ça veut dire qu'elle résonne aussi chez nos consommateurs.
Alors Thibaut, on avait posé à notre communauté Instagram, on leur avait annoncé que tu viendrais, et il y avait justement une question sur cette série de campagnes, je crois qu'il y a beaucoup marqué les esprits de ceux qui ont pu l'observer. C'est qui chez Back Market, si c'est en interne, mais c'est sûrement une agence, mais qui conçoit ces messages qui apparemment trouvent leur public?
Là, il a un nom, il s'appelle Vianney, son nom c'est Vought, c'est mon associé, et il l'a fait en collaboration avec une super agence qui s'appelle Marcel, avec laquelle on bosse depuis 2 ans, je pense, ouais, 2 bonnes années.
On cite jamais les agences, mais c'est bien de le dire.
Bon, si vous voulez les mute ou les blurrer, faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, on rend à César ce qui est à César, donc c'est un combo.
C'est important.
Vianney plus Marcel égale cette campagne. Et moi, j'adore ce qu'ils font, personnellement. D'ailleurs, vous allez avoir la prochaine campagne de Back Market qui va sortir en pub télé, là, qui va nous refaire passer un step là-dessus, je pense.
Écoute, il était une fois un partenaire qui avait une question. Je t'aurais bien dit qu'il était 2 fois, mais on te la passera qu'une fois et tu pourras répondre une seule fois aussi. Cette question, c'est une question de Laurent Garret, le patron de la banque Neuflize OBC. On te la soumet.
Vous avez un message.
Bonjour Thibault. Alors que le confinement a eu des effets néfastes sur la plupart des entreprises, vous, Back Market, vous pouvez vous vanter d'avoir vu votre croissance doubler pendant cette période, et avec surtout une explosion de vos ventes aux États-Unis. Mais quelle ironie du sort! La scale-up française qui conquiert le marché américain en pleine crise sanitaire. Ma question, avez-vous l'intention de conquérir le monde et de devenir le leader mondial de la consommation de produits reconditionnés? Merci.
Alors, très simplement...
Question sur l'ambition.
Évidemment, oui. C'est notre ambition... Et on met beaucoup d'investissements dessus. En fait, je trouve que ce qui est assez chouette quand tu crées une marketplace verticale aujourd'hui, c'est qu'on a un peu d'histoire. On a vu ce que ça donnait sur du Booking, on a vu ce que ça donnait sur du Airbnb, et il y en a plein d'autres. La réalité, c'est que à la fin de l'histoire, t'as un grand gagnant et une société, une marque. Qui en fait va être le porte-étendard de sa verticale et de sa catégorie. Donc, Back Market n'a pas copié un modèle américain, n'a pas copié un modèle asiatique, etc. Enfin, on l'a créé, hein, ce concept et cette verticale. Et donc, c'est hors de question qu'on se fasse passer devant par un Américain ou par d'ailleurs n'importe qui d'autre. Et donc, pour ça, une condition nécessaire, c'est d'être le leader mondial. Voilà. Donc c'est le plan.
Et du coup, pour voir quel est le champ de bataille dans lequel vous êtes, qui sont aujourd'hui les grands concurrents mondiaux, francophones, européens ou américains, peut-être chinois, qui peuvent peut-être demain devenir ce leader mondial face à Back Market?
Bah, c'est des toutes petites boîtes comme Amazon, qui sont voilà des je sais même pas comment, enfin des géants qui dominent la distribution en ligne au niveau mondial, qui permettent aussi de vendre des produits reconditionnés. Après, je pense quand on développe une verticale, c'est important de se poser la question en permanence de c'est quoi la valeur que je vais apporter en plus à mon consommateur et à mon vendeur, à mon reconditionneur, par rapport à ces géants qui font en fait du généraliste, donc ils vont vendre aussi bien un produit neuf, un abonnement, un tracteur, une casserole, que un produit reconditionné. Donc, on met tous nos efforts pour que pour pas se faire manger finalement et écraser par un de ces géants qui a des ressources illimitées. Et donc on le fait de manière assez pragmatique en construisant des services à forte valeur ajoutée pour les deux côtés de la plateforme.
Est-ce que pour lutter contre ces grands géants que j'ai bien connus également, est-ce qu'il y a des stratégies d'alliance ou des stratégies un peu différentes que vous avez sans doute imaginé, c'est-à-dire pourquoi pas s'associer à un grand distributeur américain ou européen qui lui-même est peut-être un concurrent d'Amazon, mais qui peut aussi avoir intérêt à s'associer à Back Market pour profiter de votre expertise et de votre compétence sur cette verticale.
Alors, on a des discussions très actives en ce moment avec des grands distributeurs, avec des fabricants aussi, aux États-Unis et en Europe, pour justement les aider, parce qu'en fait, c'est vraiment du win-win, sinon ça ne marche pas, hein, mais les aider à passer ce cap de l'économie circulaire en s'alliant à Back Market, et nous, évidemment, en leur créant de la valeur, en les aidant à maximiser en fait la valeur résiduelle de tous ces produits retour, tous ces produits issus de droits de rétractation, ces produits issus de retour logistique, etc., chez nous. Et donc, on l'a déjà mis en place, en fait, hein, avec notamment Boulanger, qui revend tous ces produits reconditionnés sur la plateforme, avec Dixon en Angleterre, qui fait la même chose, avec PC Componentes en Espagne, qui fait exactement la même chose. Et maintenant, l'idée, c'est de le passer à scale. Ce genre de partenariat, il est super vertueux pour Back Market. Et du coup pour eux aussi, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils sont avec nous. Donc c'est super important, ouais, qu'on arrive à travailler plus proche et main dans la main avec ces grands distributeurs. C'est vital même pour la suite, puisqu'ils, en fait, c'est eux qui touchent et qui captent l'immense majorité des produits neufs qui sont vendus et qui vont pouvoir aussi récupérer les flux autour.
Et alors quand on se retrouve en tant que fondateur à la tête d'une société qui est en forte croissance, qui vient de lever beaucoup d'argent, qui aujourd'hui concurrence les plus grandes plateformes mondiales, on se pose aussi la question de quelles peuvent être les prochaines étapes. Tu as parlé d'ambition mondiale et de leadership, enfin de prise de position de leader. Et on a une question de France Digital, Nicolas Brienne, notamment sur l'avenir de Back Market justement.
Vous avez un message.
Bonjour Thibaut, tu es en train de créer une plateforme qui est un géant du reconditionnement des déchets électroniques. En ce moment, toute l'actualité est portée sur la fusion Veolia-Suez. Ma question, c'est à terme, est-ce que c'est toi qui rachètes Veolia ou est-ce que c'est Veolia qui te rachète?
C'est sûrement une métaphore.
Alors, c'est marrant que Nicolas ait pris cet exemple de Veolia-Suez. Moi, je pense que, donc, aujourd'hui, pour la petite histoire, hein, le reconditionnement et le recyclage, c'est des circuits qui marchent pas encore très bien ensemble. C'est-à-dire que pour limiter un maximum l'impact carbone, il faut reconditionner, il faut réutiliser les produits. Le recyclage, bah, c'est en bout de course, quand il n'y a plus de solution, qu'il faut recycler le produit proprement. Mais le recyclage en soi va aussi avoir une empreinte carbone importante parce qu'on va chauffer les matériaux, etc. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mieux travailler avec eux pour faire un truc juste beaucoup plus sensé pour la planète et pour le conso, qui est quand un produit arrive au bout de sa première vie avec son premier utilisateur, bah, qu'il soit déjà réparé, reconditionné, plutôt que tout de suite recyclé. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça va trop vite au recyclage. Donc, il y a des synergies à créer avec Veolia, avec Suez, pour que voilà, la réutilisation devienne finalement un premier filtre avant le recyclage. Et donc, on pourrait tout à fait devenir également un apporteur de flux de produits à recycler une fois qu'il n'y a vraiment plus d'utilité, plus de demande de la part du consommateur. Et puis, pour répondre à la question de qui rachète qui, j'en sais rien, mais ce sera pas Veolia qui rachètera Backmarket. L'idée, c'est pas de vendre. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance, et on se le dit assez régulièrement avec mes associés et puis même avec l'équipe qu'on a construit autour de Backmarket, c'est qu'on a un sujet unique qui nous drive, qui marche d'un point de vue business et qui marche d'un point de vue sens. Franchement, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire après Backmarket et tout ça, mais je suis tellement surexcité par le sujet et par tout ce qu'il y a à construire que voilà, le dernier sujet, c'est de vendre.
Avant de passer à notre dernière rubrique, je serais curieux, parce qu'on parle de la revente et de ce que tu pourrais faire après, est-ce qu'il y a des projets qui sont restés à la corbeille avant de lancer Backmarket?
Ouais, il y a des projets qui sont restés à la corbeille, et je pense que c'est pas plus mal. J'ai vécu à Toronto pour mon lycée, et au début, je parlais très mal anglais, et j'adorais le cinéma, donc je me disais, mais ce serait trop bien d'avoir des casques de ouf au ciné pour pouvoir écouter les films dans ta langue, en fait. Et du coup, t'adresserais une cible étrangère qui est pas adressée aujourd'hui dans toutes les grandes villes du monde. Je m'étais renouvelé cette réflexion en Inde. Voilà, c'était une idée de boîte que j'avais pas mal poussée, mais qui servait pas finalement un intérêt général majeur.
Non, mais il est possible quand même que ça arrive. Il y a un véritable marché de la traduction instantanée, simultanée, qui fait qu'un jour, on n'aura probablement plus besoin d'apprendre des langues étrangères.
Ouais, c'est possible.
Parce qu'on aura une forme de d'homme augmenté qui aura directement accès à des implants qui traduiront automatiquement toutes les langues.
Mais il n'y aura plus la beauté et la sexiness de l'accent.
Ah, tu peux faire... tu peux essayer quand même.
C'est comme le robot 6PO dans Star Wars. C'est le robot 6PO qui connaît tous les dialectes de la galaxie.
Bon, bah du coup, je mets vitesse-lumière. J'avais d'autres questions, mais vitesse-lumière vers notre prochaine rubrique. Attention. I have a dream. I have a dream. Dans cette dernière rubrique, Thibaut, l'idée, c'est d'évoquer le monde d'après et le rêve que tu peux en avoir. Si on part du principe que l'avenir sera celui qu'on décide d'écrire, je serais curieux de savoir ce que tu as envie de mettre comme encre dans ta plume.
Comment je le décrirais ? Je le décrirais comme un monde avec une empreinte zéro carbone. Où en fait on a réussi à combiner en fait la croissance des hommes sert à la planète comme la planète sert aux hommes, mais que l'équation soit beaucoup plus équilibrée et qu'on soit en paix aussi, ce serait super à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup, mais qui peut être un peu violent quand même, hein, avec pas mal de conflits et tout. Et je pense qu'on a partout dans le monde, hein, pas qu'en France, mais des entrepreneurs qui peuvent jouer un rôle assez important là-dedans avec des talents pour justement créer ces modèles dont on a besoin pour faire cette transition, et cette transition écologique, mais qui va aussi en fait, nous permettre de survivre, hein, tout simplement, et de continuer à vivre heureux dans un environnement plaisant, quoi.
Tu parles de nombreux conflits. On avait évoqué, alors je ne sais plus avec quel entrepreneur, mais un très bon docu sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, qui expliquait à quel point les algorithmes parquaient tout le monde dans ses propres convictions et faisaient qu'on avait du mal aujourd'hui à s'entendre, à se mettre d'accord sur des points vérifiables. Est-ce que tu partages déjà peut-être ce constat? Et si oui, est-ce que tu penses que l'entrepreneur a un rôle à jouer demain dans la réconciliation du monde?
Bah, je pense que oui, parce que en fait, le système, il est factuellement, il est très loin d'être parfait. Et qu'à ouvrir 2-3 médias et puis regarder un peu autour de soi, il n'y a même pas besoin de regarder la presse. Il y a partout, il y a des problèmes. Moi, je pense qu'il y a des opportunités à créer justement des innovations, des services qui peuvent y remédier. Et pas seulement par du monde associatif. Moi, il y a des très belles associations, etc. Et je les remercie pour tout ce qu'elles font. Mais je pense que pour le faire at scale, ce qui est le sujet aujourd'hui avec une population qui grandit au niveau mondial, bah, c'est des entreprises qui doivent le faire, hein, et qui doivent adresser le sujet pour que, en fait, économie et impact positif soient la même chose, soient pas l'un ou l'autre. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un peu trop ce truc de c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas vrai, et on est en train d'en faire une toute petite démonstration, mais je pense qu'on peut la faire à plein d'endroits.
J'ai entendu le mot at scale, et là je fais mon maître Capello. De temps en temps j'interromps l'entrepreneur pour expliquer ce qu'on nous dit, qu'on a un jargon entrepreneurial. Donc at scale, je rappelle que c'est à l'échelle, donc ce qui permet effectivement de grandir et de croître avec un modèle économique qui est profitable. Et je me posais une question qui est finalement, Thomas a évoqué derrière nos écrans de fumée, qui est un documentaire qui s'appelle Social Dilemma en anglais, et qui montre une sorte d'ambiguïté chez les GAFA, qui ont amené énormément de progrès, de la transparence, beaucoup plus d'informations, les réseaux sociaux. Ça a permis, par exemple, l'émergence de nouvelles démocraties avec le printemps arabe, etc. Et puis en même temps, toute l'ambiguïté qu'il y a autour des modèles économiques, du temps d'écran, de l'addiction, de l'économie de l'attention. Et je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté, y compris finalement dans l'économie circulaire aujourd'hui. C'est la question un peu provoque pour peut-être conclure ce premier volet de ton podcast, Thibaut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est back market, on a quand même besoin de l'économie de la production et donc de l'impact carbone qui est associé à cette croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut recycler finalement des produits que s'ils ont été achetés une première fois. On ne peut pas imaginer un monde, à moins que ce soit effectivement ton utopie, mais un monde dans lequel on ne produira plus du tout de téléphones ou de produits électroniques.
Eh bien, si, mon cher Olivier. Je vais prendre un exemple qui existe, s'appelle Cuba. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Mais regarde, ils n'ont plus le droit d'apporter de bagnole sur l'île depuis bien longtemps maintenant. Et du coup, leur seule option pour continuer à rouler, c'est de les réparer. C'est de les reconditionner. Et donc, tu ne peux acheter que reconditionner. Donc, si, at scale... si tu arrêtes de produire des produits neufs, tu pourrais imaginer, par exemple, sur des produits électroniques, que l'innovation, elle passe sur de l'innovation de composants, que ce soit pas un produit entier avec 100% du produit qui est jeté à la fin. Mais par exemple, tu vois, sur les mobiles, les innovations, c'est énormément sur l'appareil photo, la qualité des photos en ce moment. Bon, bah, pourquoi, en fait, l'appareil photo ne serait pas un composant isolé? Et Fairphone est en train d'en faire la démonstration, et tu pourrais imaginer, bah, je remplace mon 20 millions de pixels par mon 50 millions mégapixels, et juste cette partie là en fait. Et donc tu passerais d'un monde où en fait tu produirais pas intégralement des produits neufs, tu continues à innover, mais tu passes sur un système de soit juste de réparation parce que l'usage en fait te va très bien, soit t'as envie d'avoir des innovations, et là tu achètes des pièces qui te permettent d'innover, mais sur un support qui existe déjà. Et ça existe très très peu encore.
Eh bien, le monde de la tech d'après aura peut-être le charme de Cuba. En tout cas, moi, je sais que notre monde d'après très immédiat, c'est la deuxième partie de l'épisode 40 nuances de Next de Thibaut Delarose, cofondateur de Back Market. Thibaut, si tu le veux bien, on se retrouve après ce jingle.
40 nuances de Next.
Next 40. 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.